Et vous écoutez France Culture. Pour sculpter la bêtise, il suffirait de mouler un censeur d'Elfeuille de Thon. Et pas d'erreur, c'est le régent. Clôture de l'exercice 2016 pour les mauvaises gens de mauvais genre qui ne vous offriront pas un Père Noël empalé sur un sapin, pas plus qu'ils ne fourront vos doux chaussons de cervelle encore palpitante ou de tête de veau mornée. Nous nous contenterons plus modestement de quelques délectables recommandations littéraires, graphiques et cinématographiques où figureront néanmoins, vous connaissez la maison, des vers géants, des extraterrestres ottomanes, le Yeti et quelques bikeuses japonaises. Il faut bien tenir son rang même si c'est le dernier, c'est-à-dire le premier. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Mauvais Genre, le dernier Mauvais Genre de l'année 2016, juste avant les réjouissances et le passage à 2017. Alors évidemment, comme la tradition l'exige, nous avons deux émissions dans l'année, un peu foutraque, un peu pique-nique, un peu barbecue, un peu folie, un peu en vrille, celle de la dernière émission de l'année, la dernière émission de l'année. Alors voilà, c'est en tout cas la première et tout le monde est là, ou quasiment. Bonsoir Céline Duchesnet.
Bonsoir François.
Vous allez nous parler de cryptozoologie.
Et de bêtes bizarres.
Voilà, c'est vrai que depuis l'été dernier, avec votre triomphe impérial en compagnie de Laurent Polleret, sur le cri de la morue
et le claquement de dents
de la fourmi, vous êtes donc la spécialiste de la cryptozoologie à mauvais genre. Bonsoir Sixtine Audebert.
Bonsoir François.
Vous êtes à la recherche de l'ultrasexe.
Tout à fait.
Plus que jamais, on va voir à quel point vous avez pu trouver chaussures à votre pied, en effet, grâce aux éditions Nova Express. Comment va Élise Lépine ?
Elle va très bien, Élise Lépine.
Elle est venue avec ses gros verres blancs.
Je suis venue avec mes gros verres blancs gluants.
Gluants, j'espère, oui, parce que comme il ne faut pas faire les choses à moitié, tout ça, c'est dans un livre dont on veut vous parler, paru aux éditions de Noël. Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Comment va-t-il ?
Mais admirablement bien.
Alors, vous avez revisité les classiques, si j'ose dire.
Avec Almodovar, un magnifique coffret, 18 films.
18 Almodovar.
18 des 20 longs métrages sont disponibles en Blu-ray, s'il vous plaît, chez TF1 Vidéo. C'est tout de la restauration 2K, sauf les deux derniers qui n'avaient pas besoin d'être restaurés. Donc...
Et pourquoi pas 4K ?
Certains sont en 4K. Certains sont en 4K. C'est à la fortune du pot. Voilà. Et il y a en tout cas Julieta, le dernier. Mais c'est pas de celui-là dont je vous parlerai.
Voilà. Vous nous avez quand même mis la main sur une rareté. Il y a quand même quelques petites choses un peu singulières.
Il y a des choses, voilà. Il y a de tout. Vous allez voir.
Voilà. Écoutez, on est impatients. Bonsoir Jean-Pierre Dionnet.
Bonsoir. Alors moi, je parlerai de Dupuis chez Dupuis, mais je voulais dire quelque chose de plus important. C'est pas avec deux bébés phoques on peut faire des pantoufles. Ça, je vous dirais quand même pas ça. Je ne suis pas Céline Duchesnet. Mais c'est 2017.
Céline Duchesnet,
moi j'enregistre le
aucun poc. Animal n'a été torturé pendant cette émission,
2017,
mesdames, messieurs.
Si on additionne, selon la tradition alchimique, ça fait 1-0.
Oui.
1-0, ça veut dire 0-1. Donc on est revenu à l'époque de GB. C'est-à-dire qu'en nombre premier, on est à 1-0. C'est très important ce que je dis. Ça veut dire que c'est un recommencement alchimique qui commence en 2017. 2 plus 1 plus 7 égale 1-0. 1-0 égale 0-1.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde là,
voilà, non,
mais je fais, vous tranchez de manière autoritaire sur un sujet colossal.
Je vous dis que ça veut dire.
Tu vas changer
je
le plomb
dis,
en or.
Je veux dire que ça veut dire un nouveau départ pour l'humanité.
Bon.
Qu'est-ce que je risque ? J'ai 365 jours et au 364e, je vous dirais que c'était une blague.
Voilà.
Mais peut-être que j'ai raison.
Mais j'espère que vous avez raison et que c'est un nouveau départ pour l'humanité. Enfin, on verra, il y a plusieurs événements dans l'année qui peuvent le prouver ou non. Et on termine avec Fausto Fazulo. Bonsoir.
Bonsoir François.
Alors Fausto Fazulo, de quoi s'agit-il ?
Eh bien moi, je vais vous amener dans les ruelles sombres de Yokohama.
Ah, on est si bien, on est chez nous là.
Exactement, avec Ryuko qui est une nouvelle héroïne tout droit sortie d'un Gekiga, publié au Lézard Noir. Le Gekiga, c'est un manga à destination des adultes et avec des thématiques particulièrement adultes justement.
Très bien, écoutez, c'est parti, en route pour la mauvais genre parade, la dernière de 2016. Thank you. John Cagliar, Night of the Equinox, le choix de Laurent Polleret pour notre playlist de ce soir. Le climat est donné, un climat un peu archaïque, mystérieux, animal. Céline Duchesnay,
vous me regardez.
Bah oui, je vous regarde parce que quand même c'est à vous de nous exploser de quoi il s'agit dans ce livre quand même opulent, extrêmement savant, extrêmement documenté, qui paraît chez Delachaux et Nicelet de Benoît Grison et qui s'intitule, je cite, « Le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie, du Yéti au calmar géant ».
Oui, en fait, c'est 400 pages pour faire le tour du monde des animaux extraordinaires sous un angle très particulier, donc celui de la cryptozoologie. Donc la cryptozoologie, c'est la science des animaux cachés dont l'existence est controversée. Alors, quel type de bêtes trouve-t-on dans cet ouvrage ?
Alors, il faut d'abord dire à nos auditeurs que la cryptozoologie, c'est une science mystérieuse créée par Bernard Heuvelmans, l'homme, le savant belge qui s'était spécialisé dans la retrouvaille avec le Yéti, le monstre du Loch Ness.
Et c'est une science qu'on se gardera d'ailleurs de confondre avec la pop cryptozoologie, qui pour le coup est beaucoup plus présente sur Internet et dont Internet
est un grand... Nous ne sommes pas ce genre de personnes.
Non, vraiment pas. Donc grand colporteur avec ses créatures douteuses, monstrueuses, protéiformes, suceuses de sang. Non, pas du tout. Nous allons du côté du sérieux avec donc Benoît Grison, dont vous avez cité le nom, qui est docteur en sciences cognitives, biologiste et sociologue des sciences. Ça, c'est pour vous montrer la caution scientifique de cet ouvrage. Mais ça ne nous empêchera pas de parler de kraken, de serpents de mer, de monstres lacustres à foison, avec évidemment Nessie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des hommes sauvages, des primates incertains, l'insaisissable Yéti, des grands singes incongrus, pour ne citer...
Des grands singes incongrus,
incongrus, oui, j'ai beaucoup aimé le titre, donc je le dis. Et alors, chaque espèce sur laquelle Benoît Grison enquête est analysée avec méthode, à savoir des témoignages humains, des observations de première main sur des pièces anatomiques que l'animal aurait laissé. Alors qu'est-ce qu'on a ? Des excréments, des traces sur le sol, des terriers à découvrir, et ce qui transforme finalement nos cryptozoologistes en Sherlock Holmes de la jungle et des autres biotopes peu explorés. Parce qu'un animal qui finalement était inconnu il y a quelques années ou quelques siècles peut aujourd'hui devenir tout à fait réel, puisqu'il y a beaucoup de zones encore sur Terre qui n'ont pas complètement été explorées. Et c'est là en fait où je vous propose le cadeau de Noël, je pense le plus pervers de notre soirée, parce que c'est le livre des déceptions pour les gens de mauvais genre, c'est-à-dire pour tous les fans de merveilleux, les amateurs
comme horreur,
de bêtes improbables, ceux qui pourfendent les créatures hybrides, ceux qui aiment les chimères, les monstres sanguinaires, les sirènes et loups-garous, même ceux qui aiment le Père Noël. En fait, ce livre peut être un petit peu rabat-joie parce qu'on apprend que le monstre du Loch Ness, en fait, n'est que le produit d'un phénomène naturel dû à des couches thermiques d'inversion susceptibles de distordre et d'agrandir ce qui se trouve dans l'eau.
Je l'ai toujours dit.
Associé à ça, la présence de quelques phoques et paf, vous voyez le monstre du Loch Ness. Le Yéti, lui, ne serait qu'un ours bleu présent au Tibet. Alors, il y a des oiseaux dinosaures qui avaient été repérés, soi-disant, dans le ciel du Botswana et de la Namibie. Ce ne sont en fait que des becs en sabots, donc des oiseaux à la silhouette extraordinaire et au bec ultramassif. Donc, on est très loin de Jurassic Park. Déception, peut-être. Et la liste des désillusions est assez longue, mais... Comme je ne suis pas complètement mauvaise fille, je vais m'attarder sur un cas qui est quand même un objet de fantasme, parce que je crois qu'on a tous en ce soir du 31 décembre droit à notre part de rêve, et je vais vous parler d'Oliver. Et en fait, Oliver est mon préféré dans ce livre. Oliver, c'est une créature simiesque qui relève plutôt du chimpanzé qui est apparu dans les années 70. Alors il était assez étonnant par son aspect physique, il marche exclusivement debout, il a un très peu prognate pour un singe, il a des petites oreilles fines et pointues et il est quasi chauve. Et Oliver sait tout faire. Oliver, il sait prendre des canettes à un distributeur automatique, il contribue par exemple aux tâches ménagères du foyer qu'il a accueilli, à savoir monsieur et madame Burger, qui était un célèbre couple de dresseurs américains. Donc il sait mettre la machine à laver, il nourrit les animaux domestiques de la maisonnée, il ne sociabilise avec aucun congénère de son espèce. Lui, ce qu'il aime, c'est la compagnie des hommes, ce qui rend Oliver absolument unique. Il est tellement unique, Oliver, qu'il a été racheté à ses propriétaires pour 10 000 dollars. Il y a eu des surenchères, pas possible. Il a eu divers propriétaires, il a été exhibé comme un frix dans beaucoup de tournées, jusqu'à ce qu'on commence sérieusement à s'interroger sur ses ancêtres. De qui Oliver est-il le fils ? Et c'est ça la grande question du livre. De parents chimpanzés, particulièrement doués, d'un hybride chimpanzé-gorille, ou plus audacieux encore, est-ce que Oliver ne serait pas un hybride homme-singe ? Et alors, c'est une thèse tout de même qui a été avancée en 1996 par Gordon Gallup, qui est le grand spécialiste de la psychologie expérimentale de l'Université de New York. Et Gallup se référait notamment aux tentatives d'hybridation qu'avait effectuées à l'époque le zootechnicien soviétique sans scrupules, le célèbre docteur Ivanov. Et là, j'ai envie d'arrêter ma chronique, parce que finalement, je me dis, si on s'arrête là, on a absolument tous les ingrédients qui sont propices aux mauvais gens. Bah, on oui. a du SF, du polar, de l'horreur, du gore, de l'érotisme sûrement, du porno graphique encore plus probablement. Et donc, je ne vous livrerai pas la réponse du livre sur qui étaient véritablement les parents d'Oliver. C'est à vous finalement de vous faire votre petit film et de savoir ce qui s'est passé ce soir-là à la naissance d'Oliver.
Du Yeti au calmar géant de Benoît Grison. Donc, c'est un livre paru aux éditions de La Chaux et Nisley. Monsieur Jean-Pierre, pendant que la musique jouait, vous nous avez avoué quelque chose.
Oui,
Oliver, c'était vous.
Sous l'emprise du champomis, je suis allé aux eaux de Vincennes.
Vous êtes oublié.
Et j'ai vu un singe qui m'a regardé. Enfin, non, j'avoue pas.
Non, n'avouez pas. Cela dit, est-ce que vous êtes porté sur la cryptozoologie, Jean-Pierre ?
Oui, bah depuis Evelmans, bien sûr. Celui auquel je croyais le plus, j'espère que je ne suis pas déçu dans le livre, c'était le Bigfoot.
Bah, le Bigfoot, il figure. Il fait partie des grands singes incongrus.
Aïe. Oh non.
Alors, en définitive, la thèse de Benoît Grison, Céline Duchesnay, est assez rationaliste. Tout animal prétendu, mystérieux, inconnu, fossile vivant, est en définitive un animal tout à fait connu et dont il serait la version poético-fantasmatique, légendaire et mythique.
Oui, ou alors on aurait des bribes comme ça qui nous seraient venues du passé et qui nous mettraient sur la voie d'une bête qui a réellement existé, qui peut-être a disparu aussi.
On passe maintenant non plus au calmar géant, mais au ver géant, grâce à vous, Élise Lépine, donc un livre paru aux éditions de Noël. Alors, dans une collection que je signale et que je recommande, on n'en a pas assez parlé, c'est la collection Effroi.
Effroi.
De Noël a plusieurs collections. On va faire un peu le point sur l'actualité de Noël. Il y a d'abord Lune d'encre, dont on a parlé très récemment avec L'Assium de Romain Lucaso. C'est la grande collection de SF et de fantasy dirigée par Gilles Dumais. Il y a la collection Sueur froide, où on peut lire notamment Sandrine Collette et toute une série de polars et de thrillers. Et puis il y a la collection Effroi. Et la collection Effroi, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle me rappelle et d'une certaine façon elle ressuscite les anciennes collections d'horreur que l'on avait en presse pocket, que l'on avait chez J'ai lu et qui avaient quand même disparu. Puisque là, comment dirais-je, la fantasy a tout avalé, la science-fiction aussi a pas mal fait. Par contre, le fantastique et l'horreur avaient tendance à décroître. Et là, avec cette collection Effroi, bah, on a quand même de quoi répondre à nos pulsions basses et à nos envies morbides. Élise Lépine.
On est vraiment François, dans le genre gore et le genre horrifique. On est dans une veine très, très définie, en tout cas. C'est vrai qu'on avait un petit peu perdu de vue. Donc, Nick Cutter, Troupe 52 chez De Noël. Nick Cutter est le pseudonyme d'un auteur canadien qu'on connaît, c'est Craig Davidson, à qui l'on doit.
Qui était venu à Mauvais Genre lors de son passage à Vincennes.
Voilà, un goût de rouille et d'os adapté au cinéma par Jacques Audiard. Récemment, Nick Cutter, ça doit être le jumeau maléfique de Craig Davidson, puisqu'il est doté d'une imagination horrifique débridée. C'est le troisième récit d'horreur qu'il publie au Canada, le premier qui est traduit en français aujourd'hui. Il a fait forte impression d'ailleurs à Stephen King, puisque c'est écrit sur la couverture « Troupe 52 m'a terrifié, âme sensible, s'abstenir ». Et effectivement, c'est terrifiant. Alors nous sommes sur l'île de Falstaff, une île perdue au large d'un coin perdu du Canada. Une île normalement déserte, mais qui est occupée pour le week-end par 5 adolescents, un groupe de scouts, des jeunes scouts, sous la houlette de leur chef Tim qui est médecin. Et ils voient débarquer sur leur île de Falstaff un homme rachitique, maigrissime, doté d'un appétit vorace. Il demande de la nourriture, il est impossible à rassasier et pour cause, il est dévoré par des vers géants. Ce dont bientôt vont s'apercevoir les 5 jeunes garçons et leur chef scout. Il a été victime d'une expérimentation mystérieuse menée a priori par l'État qui a joué avec le ténia, avec le ver solitaire et qui en a fait une arme de destruction massive qui n'aspire qu'à dévorer son hôte avant de passer à un autre. Donc on est vraiment dans le motif de la contagion, de la dévoration. On n'est pas avec 10 petits nègres mais avec 5 petits petits scouts. Pour corser l'affaire, chacun de ces scouts a un tempérament bien marqué. Donc on a évidemment le super-héros à l'américaine, le jeune qui se prend un peu qui va rouler des mécaniques et puis qui va finir par faire la grosse bêtise et par faire n'importe quoi et par précipiter tous ses copains dans la catastrophe. On a le jeune geek, la victime qui est sadisée par tous ses copains, et puis on a celui qui a un peu une perversion et qui adore torturer des animaux et qui va se mettre évidemment à torturer au gré de cette catastrophe qui s'annonce ses petits camarades. Voilà, donc c'est un huis clos mortel avec des vers sur une île. Donc on est dans la veine horrifique très prononcée et très gore. Le motif de la cabine fever, la cabane perdue au fond des bois, théâtre des pires atrocités. C'est un classique, on a des énucléations, des éventrations, des cerveaux qui sortent, des têtes qui explosent, des corps qui pourrissent.
C'est vraiment d'un classicisme.
C'est d'un classicisme absolu.
Presque décevant.
On s'ennuie, on s'ennuie.
On frôle l'académisme.
C'est un bon livre pour s'endormir d'ennui, effectivement. En outre, il y a un travail très fin sur la psychologie des personnages. Hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est des adolescents qui s'interrogent sur le monde des adultes. Et puis, on a ce rapport entre le monde des adultes et le monde des adolescents et ce passage difficile vers l'âge d'homme, d'autant plus difficile qu'ils sont sur une île et qu'ils sont attaqués par des vers géants, effectivement. Et puis, on a une dimension intéressante aussi, c'est le nature writing chez Craig Davidson, alias Nick Cutter, que j'ai trouvé très intéressant aussi, avec cette île perdue, avec ces éléments qui attaquent les adolescents au même titre que les vers, qui sont quand même un petit peu moins redoutables. C'est gore, mais c'est beau, et on peut passer tranquille à 2017, puisque la relève de Stephen King est assurée.
Mange, mange. Il fait noir, si noir, le vide. Plutôt, il avait vu une lumière, il l'avait suivie, comme un papillon de nuit attiré par une flamme. À présent, elle avait disparu. Il ne restait plus que cette folle obscurité à vous arracher les yeux. Et cette faim. L'homme se traîna sur la plage rocailleuse, glissant sur les galets polis par les vagues. Les pierres étaient recouvertes d'algues lisses et froides dont la texture rappelait la morve. Il en fourra une pleine poignée dans sa bouche, aspirant entre ses lèvres les sombres filaments verts, comme un enfant se délectant de nouilles aux œufs. Juste là, cliquetant au sol, sa carapace luisant dans le clair de lune, un crabe s'enfuyait. Sa main se referma sur lui. Le froid de l'océan transperça sa chair. Et il l'enfourna. Il se sentit danser sur sa langue avec ses petites pattes poilues. Il le mordit. Un fluide gluant et salin gicla dans sa bouche. Une des pinces entailla le bout de sa langue dans un spasme d'agonie, libérant le goût féreux du sang. Il avala convulsivement les morceaux qui tressaillaient encore. L'exosquelette épineux déchira les tissus mous de sa gorge, qui lui semblait si frêle à présent. Un simple tuyau de chair, la peau enveloppant son ésophage devenue aussi tendue que du papier crêpé. Un sentier apparut, tracé à travers les herbes hautes. Il vit une araignée noire sur un brin d'herbe. Il la pinça entre ses doigts avant qu'elle s'échappe et la mangea. Délicieuse, délicieuse, succulente même. Il plissa les yeux, il vit une forme rectangulaire, perchée à flanc de colline, son ombre appuyée contre la nuit opaque. Ses lignes étaient trop parfaites pour qu'elles n'aient pas été fabriquées par la main d'un homme. Un faible rayon de lumière émanait de l'intérieur. Voilà, un extrait de Troupe 52 de Nick Cutter. Élise Lépine, comme disait ma grand-mère, quand on a faim, on mange de tout.
Mais exactement, et puis alors on le voit bien dans la lecture que vous venez de faire dans cet extrait, c'est Craig Davidson, enfin Nick Cutter, décrit tellement bien à la fois l'appétit, la faim, et la texture et la saveur des aliments, même les araignées, les crabes et d'autres choses encore que nous ne citerons pas, que moi ça m'a presque donné faim.
Citez, s'il vous plaît.
Écoutez, ils mangent à peu près tout ce qui leur tombe sous la main, même il y a de l'auto-dévoration, des choses assez gore. Donc, mais ça m'a donné faim.
Ça vous a donné faim?
Je ne plaisante pas, ça m'a donné faim. J'ai été me faire un sandwich en lisant ce livre parce que le fait de parler des saveurs comme ça, d'évoquer tout cet appétit, cette gastronomie un peu étrange, m'a donné envie de manger.
Troupe 52 de Nick Cutter, c'est chez De Noël dans la formidable collection Effroi. Troupe 52 m'a terrifié, âme sensible, s'abstenir, au contraire, ne pas s'abstenir, c'est signé Stephen King. Alors, Monsieur Fausto, quand même, on peut signaler par ce soir de fête quelques films d'autodévoration et
sûr.
De consommation de produits naturels.
Anthropophagus de Joe D'Amato est effectivement l'un des parangons du cinéma d'autodévoration, donc à recommander à toutes les âmes, même les plus sensibles. Après, on peut évoquer effectivement les grands films de cannibales italiens, mais il y a un film aussi qui est dans le registre du ver, c'est La nuit des vers géants de Jeff Lieberman. Mmh. Donc là, on est dans le pur ver. Et puis, si on veut lire du manga, il y a pas mal aussi d'histoires comme ça, manga, notamment chez Junji Ito, où il y a des choses assez étranges autour de créatures diverses et variées, tentacules et consorts.
Voilà, les véritables mélomanes auront reconnu, choisi par Laurent Polleret, la musique de Berto Pisano pour Interabang, alias en français Les Allumeuses. Voilà, les ceux qui n'ont pas reconnu peuvent rendre leur carte. Alors maintenant, nous nous lançons à la recherche de l'ultra-sexe, un film-livre de Nicolas et Bruno paru aux éditions Nova, Sixty Lobert.
Il faut risquer la comparaison après avoir parlé des vers géants. Parlons d'autre chose, tout à fait autre chose, n'y pensez surtout pas. Si vous n'avez pas encore bouché les oreilles de vos enfants, c'est le moment de le faire.
Car il s'agit d'un
message à caractère pornographique. Je vais vous parler de la ressortie de l'ultra-sexe de Nicolas et Bruno en filmvre. Alors, le film du latin Filmbrum, comme tout le monde le sait ici, c'est donc un film plus un livre. Nicolas Charvet et Bruno Lavenne, ce sont deux doubleurs virtuoses du détournement. On les connaît pour la série Message à caractère informatif, qui avait été passée dans la fin des années 90, qui était un détournement de films d'entreprise des années 80, ou pour l'excellente version française notamment de Vampire en toute intimité, qui est sortie en 2014 et qui filme comme un docu, comme une télé-réalité, une colocation de vampires à Limoges. Très
Limoges.
Amusant, je vous le conseille.
Sorti en DVD avec Mad Movies. Voilà. Juste une petite information, pardon Sixtine.
C'est
voilà.
Totalement le hasard.
Donc, je reprends mon sujet.
Allons-y.
Donc là, je vais vous parler de la recherche de l'ultrasexe. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'ultrasexe? Eh bien, c'est un film qui a été réalisé pour les 30 ans des studios Canal et qui a eu donc ils ont une carte blanche avec toutes les archives pornographiques. Et donc, c'est une intrigue qui est un prétexte au détournement. Et il nous est raconté comment la planète Terre a sombré dans la frénésie sexuelle après le vol de l'ultrasexe censé réguler son activité. Donc c'est plein d'humour, plein d'aventures avec des personnages hauts en couleur. On est notamment embarqué aux côtés du général Zizi, du capitaine Sgeg et de la belle sourcil sur le vaisseau Prépuce 5. On suit à la lettre les enquêtes de l'inspectrice Bambi Darling et sa meilleure copine Stormy Brushing. Et on combat avec Christian Coiffure, mi-homme, mi-robot, fils de Jean-Louis David et de Magnétis de Kérastase pour arrêter Ninja Nazi. Vous l'aurez compris, ce film est très rigolo. C'est un montage d'une heure de plus de 350 films, il me semble. Et ils ont choisi que des pièces savoureusement kitsch. Il y a beaucoup de brushing, beaucoup de moustaches et beaucoup de films absurdes aussi. On a une compétition donc pornographisée, on pourrait dire, de patins à roulettes. Il y a aussi une séquence dans un magasin de jouets et notamment des perles de films japonais. Donc vous l'aurez compris aussi, ce sont tous des films avec des scénarios de films bis qui ont une tendance presque au nanar. Donc on a de la SF, du policier et du film japonais, du film Yakuza, du film de sabre. Et ils les ont tous choisis dans ce qu'on pourrait appeler le Golden Age of Porn français, donc les années 70-90. Celui en fait, le moment des salles de cinéma spécialisées et qui était en fait le lieu de rencontre et de formation, de développement d'une sociabilité masculine assez franche et joyeuse favorisé par cette atmosphère. Et c'était donc bien sûr des films qui n'étaient pas seulement pour se satisfaire, mais aussi pour créer du lien social, échanger, papoter entre copains, et puis et plus si affinité.
Et donc voilà.
Et tout ça, donc, c'était les 7 âges d'or avant l'apparition de la cassette vidéo qui a développé finalement un porno plus ciblé. Et on voit bien aujourd'hui sur les sites qui fonctionnent par catégorie et par comment dire par critères de pratique sexuelle. Et donc le plus de ce cadeau, c'est qu'il y a le livre qui a un caractère très ludique. On peut se préparer un plateau de charcutes et un cocktail ultra sexe.
Ah bah allez-y,
apprendre la Corée.
Charcuter. Il restera toujours quelque chose.
Et en plus, c'est avec une Barbie Bambi Darling pour mettre sur le plateau. On peut apprendre la Corée, la chanson du professeur Daft Punk, donc qui est bien sûr le robot scientifique qui se réclame le sosie officiel de Daft Punk, mais qui lui ressemble pas tant que ça. Et surtout, on peut réaliser son propre doublage de films porno entre copains. Donc ça, c'est par contre un bonus du DVD. Et on a le super roman photo So 70s qui nous raconte l'histoire du film.
Voilà, c'est surtout ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'agit quand même d'un bel objet culturel,
voilà.
Puisqu'on a le volume relié et puis à l'intérieur de cela, quasiment le storyboard intégral, plus des photos et tout ça, et le DVD du film.
Voilà. Donc un cadeau ultra sexe, mais aussi ultra Noël, mais qui s'adresse quand même aux gens qui sont ultra 16 ans.
Voilà. Monsieur Dionnet.
Moi, je déplore une chose quand même, allons-y. Comme j'ai vu évoluer la pornographie jusqu'à un moment. Au moment, par exemple, où en Amérique, on voyait dans les grands cinémas Peter O'Toole dire qu'il n'avait pas fait le film où il jouait. Et on est arrivé maintenant, à cause d'Internet, des cassettes vidéo, à une ultra-spécialisation, comme dans tous les domaines de la culture, et les gens ne sont plus branchés que sur une seule sexualité. Alors qu'avant, il y avait un panthéisme, et dans les films, il y avait un peu de tout. Maintenant, c'est un peu comme quelqu'un qui n'aimerait que la marine à voile.
Surtout dans le X libertin.
Oui, on a perdu.
On aimait même les animaux.
Voilà, on aimait tout. On était très ouverts à tout, c'est le cas de le dire. Et maintenant, les gens se sont trop spécialisés. Vous devriez essayer autre chose, qui que vous soyez. Voilà.
Vous parliez de marine à voile.
Oui, non mais voile ou vapeur ou atomique, on n'a pas essayé atomique pour l'instant, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je le saurai un jour. Je pense que les gens ont tort de se fixer sur quelque chose et qu'ils mourront peut-être en ayant ignoré le coït avec la puce.
Bah oui, par exemple.
On peut dresser d'ailleurs.
Inimitable.
Enfin, il me semble qu'il y a quand même. On n'est pas obligé d'être fixé sur. Et je pense que les gens qui consomment du porno consomment finalement dans diverses catégories. Je pense que Céline doit
Vous voulez connaître mes catégories ?
Non, je pense que vous devez.
On peut cocher plusieurs cases.
C'est vrai qu'on peut cocher plusieurs cases.
On peut cocher plusieurs cases.
Et on peut faire du crossover.
Je ne suis pas d'accord.
Attendez.
Je ne suis pas d'accord.
Le fait que les films soient maintenant rangés par catégorie, c'est essentiellement parce qu'on cible des consommateurs, mais c'est une spécialisation de l'économie, enfin de l'industrie du sexe.
Je ne suis pas d'accord,
c'est
du capitalisme pur et dur, parce qu'il y a une spécialisation qui dit que si je fais ça, c'est le double, si je fais ça, c'est le quadruple, ça c'est en heure supplémentaire le dimanche, donc c'est quelque chose qui est devenu complètement libéral, avec des tarifs différents, ce n'est pas un goût sexuel, c'est un goût du lucre. Chez ces acteurs. Et on peut le regretter.
Mais ce qui est dommage, surtout, c'est qu'on a perdu dans cette histoire le goût des histoires. Moi, voilà. Ce que j'aimais dans le porno, c'est qu'on me prenne par la main, en quelque sorte, pour me raconter une histoire.
Oui.
Même si elle est un peu sommaire.
On prend par la main, Philippe.
Alors que là, qu'est-ce que vous voulez? C'est tout de suite, dresse le canapé à fleurs et puis développe ton petit métier de spécialité. C'est quand même une poésie
alors,
qui est perdue.
Monsieur Rouillet, je voulais vous dire que Claude Chabrol avait remonté et m'avait montré que sur sa table un Marc Dorcel et il avait quand même réussi à avoir 15 minutes d'histoire continue sans pornographie aucune.
C'est ce qu'il faut compter.
Et
15
c'était,
minutes
c'était
un,
assez
sur
proche.
Un film d'histoire d'une heure et demie, c'est 15 minutes.
C'était très proche de Rob Grillet.
Forcément.
Ah bah,
non,
forcément. Mais... Rob Grillet, moins les séances, les scènes X.
Oh là, alors, moi je suis plutôt pour la spécialisation et cocher plusieurs spécialités sur un site dont je tairai le nom. Je trouve ça assez pratique.
Voilà. Ah bah très bien.
Voilà. Ah bah alors là voilà, radicalité. Alors voilà, abandonne les histoires.
Non, c'est triste, c'est du libéralisme.
Le fait de chercher une histoire, c'est quand même une manière de cacher son propre sa propre on vient pour consommer du sexe, donc c'est pas la peine forcément de rajouter une histoire, c'est du fétichisme de rajouter une histoire.
Et ben vive le fétichisme.
Le romantisme
est mort. Oh là là, quelle histoire.
Le romantisme est mort.
On peut
aussi relire Anaïs Nin, Vénus érotica. Il y a toutes les catégories, tout est parfait. Mmh.
Ah, voilà, très bien. Voilà, un bon conseil France Culturelle. Merci, Elisabeth. Je rappellerai quand même qu'elle est toujours disponible, j'imagine, sur le site de France Culture, vos travaux à nu, très remarquables, avec Catherine
Robrier. Avec Catherine Robrier, où il y a de nombreuses spécialités qui sont en effet mises en avant, mais dans un récit de vie. Aïe.
Et puis qu'en février, l'équipe de Mauvais Genre a forte chance de rencontrer Dame Brigitte Lahaie. Mais en attendant, un peu de douceur dans ce monde de spécialistes.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba.
Quelques précisions sur ce que nous entendons en ce moment, Philippe Rouillet.
Oui, ben c'est la musique de Parle avec elle, le film de
Très au courant.
Ouais. Ah ben oui. Et alors cet artiste absolument extraordinaire, il l'a rencontré Almodovar pendant. Il en était fou et c'était pendant la promotion au Brésil de Tout sur ma mère. Et malgré le décalage horaire, il a accepté d'aller à la soirée où il était et il l'a invité. Parce que ce qui est très étonnant dans Parle avec elle, c'est que c'est un film qui est très accueillant d'artistes, ça souffre avec Pina Bausch.
Vous allez nous en parler, Caetano Veloso.
Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà, Caetano Veloso, Kourou Koukou Koukou, Paloma, donc la musique, la bande-son donc du film d'Almodovar, dont vous allez nous parler maintenant, Philippe, notamment à la faveur d'une sortie alors triomphale, Kourou Koukou.
Triomphale chez TF1 Vidéo, qui a vraiment mis les petits plats dans les grands. On a tout sous la main, presque. Il manque deux films pour des questions de droit, c'est dommage, parce que c'est quand même deux des plus mauvais genres. C'est Labyrinthe des Passions, le numéro 2, où on voit même... Almodovar et ses barésilles, et puis Matador, qui est vraiment l'histoire d'amour autour de Toréador. Mais dans celui que je vous ai choisi, qui est Parle avec elle, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui est au confluent de tous les genres de cinéma d'Almodovar. Parce que ce qui est bien avec ce coffret, c'est qu'on part du premier long-métrage 1980, Pépi, Lucie et autres filles du quartier, boum, où là, on fait des fêtes, on sait s'amuser, l'alcool, le sperme coule à flot, les filles font pipi partout. Enfin, je veux dire, c'était pas le temps.
C'est la fête.
On sait s'amuser. On sait s'amuser et puis on va jusqu'à Julieta, qui est le mélodrame cirquien autour du silence.
Les filles font rarement pipi par terre.
Et de la relation mère-fille. Vous voyez, donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une marche en quelque sorte vers l'épure. Et cette marche est toujours scandée par le plaisir de la digression. C'est tout d'un coup l'adaptation de Miguel, Pierre Capito, voilà, le bouquin de Thierry Jonquet avec Antonio Banderas, qui est absolument incroyable, et la pénétration de l'homme tigre, s'appelait Miguel.
Sportif, oui, nous retrouvons là le Yeti, le calmar géant, et le Bigfoot.
J'ai failli venir avec la mauvaise éducation, et ces prêtres catholiques.
Que ne l'avez-vous fait?
Bon, alors, mais c'était, je trouvais ça un peu facile. Ce qui est très intéressant d'en parler avec elle 2002, c'est que vous avez deux garçons, deux filles, et alors un nombre de possibilités amoureuses et sexuelles assez important. Et ce qui est très intéressant, c'est que une à une, le scénario les étudie, y compris quand les deux filles sont dans le coma.
Alors détaillons.
On commence chez Pina Bausch avec donc le spectacle de Café Muller. Donc deux femmes qui sont un peu hébétées et un homme qui essaye de pousser les chaises sur leur chemin. Ça ne va pas empêcher les femmes de tomber. Et dans le contre-champ, on a deux garçons qui regardent le spectacle, deux hommes, l'un qui pleure et l'autre qui regarde l'autre qui pleure. Et on se dit, c'est simple, on est chez Almodovar, les deux hommes sont en couple, etc. Pas du tout, ils ne se connaissent pas et c'est une simple métaphore de ce qui va arriver après. L'un va tomber amoureux d'une femme toréador, ce qu'on appelle une torera, et l'autre, qui s'est occupé de sa mère toute sa vie, est tombé amoureux de sa voisine danseuse. Pas de chance, la voisine danseuse se fait renverser par une voiture et lui, qui est justement infirmier, va devenir son garde-malade et s'occuper d'elle quasiment exclusivement dans l'hôpital où elle est dans le coma. Et la seule chose qu'il savait d'elle, c'est qu'elle aimait la danse, évidemment elle était danseuse, et elle aimait le cinéma muet. Donc il va s'intéresser à la danse et au cinéma muet pour transformer en mots tout ce qu'il vit pour lui raconter. Et petit à petit, le film va raconter cette histoire d'amour-là, avec en parallèle l'histoire du journaliste avec sa torera. Torera qui se fait enfourcher par le taureau et qui, à son tour, devient dans le coma. Donc on a deux femmes dans le coma et deux types qui, l'un veut parler, l'autre ne veut pas parler. Alors, si on voulait résumer le film, on pourrait dire que c'est une version, si on voulait le pitcher de manière un peu plus mauvais genre, on pourrait dire que c'est La Belle au bois dormant, où le prince charmant est un semi-crétin congénital qui va mettre autre chose que la langue pour réveiller sa belle. Parce que c'est finalement ce qui va se passer.
Sixtine suit mal, soyez plus précis, monsieur.
Dans sa folie douce, notre infirmier va non seulement masser, nettoyer la jeune fille dont il est amoureux, mais tout d'un coup, il va craquer, il va l'honorer. Et ce qui est très beau dans l'histoire, c'est que, évidemment, ça va se passer très mal pour lui, parce que c'est censé quand même être un viol, mais de ce geste-là va naître la vie. Elle va ressortir du coma, elle qui ne pouvait pas sortir du coma, et elle va même être enceinte. Donc voyez cette idée quand même très belle. Mais ce qui est très beau, c'est la manière cinématographique dont Almodovar raconte ça. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous montrez le petit crétin qui est en train de ananer sur le corps nu de la fille dans le coma, c'est moyennement glam.
C'est commun.
Ouais. Et même quand on est amoureux des mauvais genres, on pourrait presque prendre en grippe le personnage.
Est-ce que c'est là où il se transforme en tout petit personnage qui va grimper sur la femme ?
Il a été à la Cinémathèque la veille pour voir un grand film muet qui s'appelle « L'amant qui rétrécissait ». Et ce film muet, qui évidemment n'existe pas, mais il a été tourné par Almodovar selon les règles du cinéma muet. C'est-à-dire qu'il a fait des recherches inouïes pour retrouver la texture de la lumière, cette espèce de blanc de la pellicule orthochromatique très particulière. Il a entraîné ses acteurs à jouer comme dans le muet, c'est-à-dire ce mélange de surjeu, mais qui est servi par la mise en scène. On est dans un film qui est censé avoir été tourné en 1920. Et c'est une parodie du film de Jack Arnold, L'homme qui rétrécit. Voilà, oui. C'est-à-dire que le scientifique va boire son expérience et va rapetisser. Par amour, il quitte sa belle, parce que c'est quand même pas possible, et il retourne vivre chez sa mère. Sauf que chez sa mère, c'est un enfer. Il vit dans son train électrique et il découvre dans un de ses livres de jeunesse une lettre de son père mort. Il découvre que sa mère a assassiné son père. C'en est trop. Il va rappeler sa belle qui vient le voir, qui ne s'entend pas du tout avec sa belle-mère. Mais comme l'homme est tellement petit qu'il peut loger dans son sac à main, elle va en quelque sorte kidnapper son aimé et le ramener dans sa chambre. Et il va pouvoir consommer son amour comme il veut, car il a juste la taille du sexe de son aimé. Et plutôt que de la pénétrer avec son sexe, il la pénètre avec son être tout entier. Et c'est cette histoire-là que raconte le film, c'est-à-dire qu'il plonge, dans les lettres, dans les lèvres entrouvertes de sa belle, et il s'y noie. Il s'y noie dans la cyprine. Quelle plus belle mort, quel plus bel hommage, quelle plus belle communion. Et c'est le mi-temps du film, et c'est en quelque sorte la figure imagée de ce que va raconter la fin du film. Donc si vous avez vu Parle avec elle, peut-être que c'est pas l'image qui vous reste du film. Mais finalement, c'est bien ça le film. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que sous couvert d'un cinéma plus normatif, Almodovar signe un des brûlots les plus audacieux de l'année, mais tout en étant tout public.
Céline,
réaction. Ah, mais moi, j'ai gardé à l'esprit cette scène extraordinaire de ce tout petit homme qui est obligé d'escalader les immenses cuisses de cette femme, d'ouvrir les immenses lèvres de ce sexe et de s'introduire comme ça.
Dans ce monde
souvenir Vénus, très fort, en effet.
Fausto?
C'est aussi la scène que j'ai vu le film une fois à sa sortie en salle et j'ai beaucoup apprécié. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand Philippe était en train de repitcher le film, c'est vraiment les premières images qui me sont revenues à l'esprit. Ouais.
Monsieur Jean-Pierre, quel rapport avez-vous avec le cinéma d'Almodovar, vous-même ?
Étrange et mitigé, parce que ça prouve que depuis 20 ou 30 ans, je me trompe. Parce que je l'ai connu à l'époque où il était autour d'un journal espagnol qui s'appelait El Vibora. Et il était un peu le va-chercher de ses épées, de Mariscal et des autres. Et tout le monde disait qu'il était bon à rien. Qu'il était bon qu'à faire la fête et tout. Et on s'est tous trompés, quoi. Et ça fait 30 ans que je me dis, parce qu'on était tous les ans, on en parlait. Ça a duré 4 ans à la Movida. Et tous les ans, on disait, décidément, il est bon à rien. Il fera jamais rien, lui. Et on était sûrs de nous. Alors, la plupart sont morts, des gens qui ont dit ça de lui. Et puis, bah, ça fait 30 ans qu'il me donne tort. Alors, on peut pas toujours avoir raison non plus.
Bah oui, ça finit par être ça. Philippe Rouillet, d'accord avec le...
Ah bah, on ne peut qu'être d'accord, mais c'est ça qui est formidable. Et c'est que... C'est le triomphe de l'amateur. C'est dans sa cuisine, il rêvait de refaire Douglas Sirk dans sa cuisine, et il est fait aujourd'hui sur un échelon international. Mais avec le même sens, quand on regarde un film d'Almodovar, il y a un goût de l'artisanat. C'est-à-dire qu'il y a un goût de la couleur, il y a un goût de la musique et du crossover des genres. Pourquoi pas mettre Cecil B. DeMille avec Douglas Sirk et Jack Arnold ? Pourquoi pas, effectivement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on voit un film de Almodovar, on ne sait jamais ce qu'il va y avoir dans la séquence suivante. Et cette année, un des plus beaux films qu'on a vu cette année, c'est Julieta. Simplement, le film est passé complètement à travers, parce que les gens ont dit c'est un Almodovar de plus, comme on dit parfois, c'est un Woody Allen de plus. Sauf que le film était complètement à rebours de ses précédents films, et je trouve extraordinairement culotté d'obtenir un pic d'émotion à partir du silence. Le film devait s'appeler Silence, et quand il a su que le prochain Scorsese s'appelait aussi Silence, il a préféré changer de titre et l'appeler plus classiquement Julieta. Mais les larmes à partir du silence, je trouve ça quand même très très intéressant.
Également une rareté en noir et blanc.
Eh ben, c'est celui dont j'ai parlé, là-bas qui rétrécit.
Voilà,
et qui est également muet, et en noir et blanc, bien sûr.
Tifuning High Life de Chitaori Training, choix de Laurent Polleret pour cette soirée de réveillon dans Mauvais Genre sur France Culture. On continue avec vous, Fausto Fazulo, avec une publication d'un éditeur qui nous est cher, Le Lézard Noir. J'espère qu'il continuera longtemps à lézarder.
Ah ben on l'espère aussi.
Et à lézarder noir, parce que c'est toujours formidable, Tifon. C'est quand même
c'est un éditeur de grande qualité qui n'hésite pas à publier depuis quelques temps des nouveautés. C'est vrai qu'il était beaucoup sur le registre patrimonial, on va dire, notamment avec beaucoup de mangas héroguro, érotique grotesque donc, sous Hiromaru et consorts. Et puis là, c'est une nouveauté de première main et pas des moindres. Alors, je vais peut-être vous parler un petit peu de la personnalité de l'auteur, en fait, puisque Eldo Yoshimizu, donc l'auteur de Ryuko, le manga publié au Lézard Noir, a un parcours assez singulier, puisqu'il ne vient absolument pas du manga. À l'origine, il est sorti de l'Université des Arts de Tokyo, donc prestigieuse université, où il a fréquenté notamment Makoto Haida, qui est un grand artiste contemporain japonais. Et pendant très très longtemps, il a été sculpteur, mais pour le domaine public, c'est-à-dire que la plupart de ses œuvres sont visibles dans certaines rues de Tokyo, d'Osaka ou même de Singapour. Il a donc gagné extrêmement bien sa vie, sauf que est né chez lui une espèce de manque, une espèce de frustration. Et à l'origine, ce qu'il avait envie de faire, en fait, c'était du cinéma. Donc c'est un très grand cinéphile, grand amateur de Alain Delon, vous l'aurez deviné, Jean Gabin, Steve McQueen, des Yakuza Iga, etc. Des films de la Nikatsu et j'en passe. Et en fait, il s'est dit qu'il aimerait bien faire du cinéma, mais que ça allait être un petit peu compliqué quand on est seul, même quand on a un petit peu d'argent, de se frotter, justement à la conjoncture du cinéma. Il y a tous ces impératifs. Donc il s'est dit, tiens, vu que je sais dessiner, pourquoi pas faire du manga et pourquoi pas coucher sur le papier, en fait, mes propres obsessions cinéphiles. Donc ça, c'est intéressant, puisque on voit beaucoup, c'est une tradition dans le cinéma japonais, il y a depuis tout le temps des adaptations de manga, mais il y en a de plus en plus aujourd'hui, et pas des bonnes. Là, en fait, on n'a pas, c'est pas une adaptation du manga au cinéma, mais c'est une adaptation des fantasmes cinéphiles d'un auteur en manga, donc c'est quelque chose d'assez inédit. Donc c'est pour ça que son découpage, par ailleurs, est extrêmement cinématographique et que ses références sont très axées sur le 7e art. Et il a commencé, en fait, donc à travailler sur cette histoire de Ryuko, donc, qui raconte les aventures, si je puis dire, d'une boss yakuza aux quatre coins du monde, qui est patronne d'une organisation aux ramifications internationales. Et comme il a travaillé tout seul, c'est extrêmement pour lui d'être prépublié, puisque, comme vous le savez, au Japon, quand on commence à travailler sur du manga, avant d'être publié en format relié, tel qu'on les connaît nous en France, on est prépublié dans des magazines spécialisés. Lui n'avait absolument pas envie de se frotter, justement, aux magazines de prépublication. Il n'avait pas du tout envie de rendre des comptes à des éditeurs. Voilà, il a quasiment 50 ans, il ne voulait pas avoir quelqu'un qui lui dise quoi faire. Donc il fallait pour lui trouver un moyen de prépublier. Et il s'est dit, vu que j'ai des connexions en fait dans le milieu de l'art contemporain, je vais dans un premier temps exposer mes planches. Donc il a exposé ses planches en fait dans une galerie à Ginza, si je ne m'abuse. Et donc en fait, les premiers lecteurs de son manga, les premiers lecteurs de Ryuko, ont été des gens qui sont venus dans cette galerie d'art et qui ont du coup lu son histoire debout devant les planches, ce qui crée selon lui des accidents assez drôles, puisque chacun avait son rythme de lecture et donc parfois les gens se rentraient dedans. Certains restaient plus longtemps sur une planche pour admirer ses détails, puisqu'il y en a beaucoup, vu qu'il travaille énormément sur une espèce de fétichisme du détail, que ce soit au niveau des armes, des textures, des vêtements ou des véhicules. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né Ryuko. Ensuite, il a publié, à compte d'auteur, en fait, son manga en version reliée. Et puis, le Lézard Noir, donc animé par Stéphane Duval, a été le déniché, si je puis dire, pour sortir aujourd'hui le volume 1, puisque c'est une histoire en deux volumes, le volume 2 n'est pas encore tout à fait achevé, pour sortir donc Ryuko en France. Voilà, voilà l'histoire en fait de cet auteur vraiment pas comme les autres, qui finalement lorgne plus du côté du cinéma. Voilà, si vous aimez effectivement le cinéma noir américain, le cinéma...
Quel type de récit a-t-on là ?
Alors là, on a un vrai récit en fait d'action, héritier des films d'action de la Nikatsu des années 50-60. Donc c'est pour ça, si vous aimez les films de Seijun Suzuki, tous ces films pop noir, vous allez vraiment vous régaler. Et si vous aimez aussi les films du Nouvel Hollywood, des films un petit peu plus musclés et très 70s, il y a vraiment tout ça dans Ryuko, animé par cette fougue fétichiste, puisque comme je le disais en fait auparavant, c'est quelqu'un qui travaille énormément sur le détail. Donc c'est un régal, pour peu qu'on aime les vieilles motos, les armes, tout ça, etc. Il y a un vrai plaisir en fait à se délecter de tous les micro-détails que travaille Eldo Yoshimitsu. Alors après, j'ai quelques réserves concernant le scénario, puisqu'il met tout dedans, en fait. C'est un passionné, c'est une espèce de fanboy, en fait, qui couche sur ses planches tout ce qu'il aime. De fait, son énergie n'est pas toujours très canalisée, mais alors d'un point de vue graphique, c'est un choc total, et c'est probablement l'une des plus belles choses que j'ai lues de ces dernières années.
Jean-Pierre Dionnet, le manga, sur le manga et le cinéma d'action d'Anikatsu.
Le manga, comme on le sait, c'est comme si en France, Gustave Doré avait donné ses lettres de noblesse au genre. Le manga, ça vient donc d'Okusai. Donc là-bas, on sait que tout le monde lit tous les mangas de toutes sortes, qu'il y en a des très très mauvais, qu'il y en a des très bons. Et il y a une pléthore de mangas. Bon, j'allais dire que dans le domaine des grands classiques, c'est Kana qui domine en rééditant les grands classiques. Et le Lézard Noir me sidère parce que c'est vrai qu'ils ont été patrimoniaux d'abord, mais que je découvre sans arrêt des choses que justement mes amis japonais sont en train de découvrir. C'est-à-dire qu'ils traduisent les livres en temps réel. C'est ce que disait notre ami, c'est-à-dire on attend le volume 2. Avant, on avait des années avant d'avoir un manga. Et là, je trouve que Stéphane Duval fait un travail absolument sidérant. Moi, j'ai été le voir chez lui et il m'a emmené dans une boutique où il refaisait des facsimilés d'objets en zinc que les Japonais faisaient après la guerre, puisque c'est sur les restes de la guerre même. Eh bien, il était en train de travailler sur les facsimilés des objets. Si vous dire qu'on est chez un fou.
Et c'est très bien comme ça, Ryuko, donc aux éditions Les Arts Noirs. The dog trots freely in the street and sees reality. And the things he sees are bigger than himself. And the things he sees are his reality. Drunks in doorways, moons on trees. The dog trots freely through the street and the things he sees are smaller than himself. Fish on newsprint, ants in holes, chickens in Chinatown windows, their heads a block away. The dog trots freely in the street and the things he smells, smells something like himself. The dog trots freely in the street past puddles and babies. Cats and cigars, pool rooms and policemen. He doesn't hate cops, he merely has no use for them. And he goes past them, past the dead cows hung up whole in front of the San Francisco. Un mot sur Atome, Fausto Fasulo. Rapide.
Un mot sur Atome, oui, très rapidement. Janvier, c'est une revue pour être un peu snob sur le manga trimestriel qui sera lancé donc à la toute fin janvier. Et l'idée, c'est de donner la parole aux mangaka. Romeo Ravioli Factory, past Kautz Tower, past Congressman Doyle. He's afraid of Kautz Tower, but he's not afraid of Congressman Doyle, although...
Jean-Pierre Dionnet, maintenant place à vous, oui, avec alors, l'histoire de l'art voilà, de Philippe Dupuis.
Une histoire de l'art de Philippe Dupuis aux éditions Dupuis, ça doit être pour ça qu'ils l'ont publié. Donc là, moi je suis très très sérieux.
C'est quand même un peu.
Je vais être très sérieux. Dupuis et Berberian, je les ai pratiqués, après Gottlieb d'ailleurs, pendant quelques années, et je faisais partie des gens qui pensaient que c'était un couple parfait. Qu'entre l'Arménien né dans les pays arabes adorant les films bis des années 50 et l'autre amateur de l'art Dupuis, etc., Monsieur Jean et la suite et tout, c'était parfait. Et puis ils ont commencé à se faire des infidélités assez tôt dans les années 95. Et puis ils se sont séparés, mais ils se retrouveront un jour, comme il va y avoir bientôt un Zap 17. Et il a fait un livre qui me semble aussi important que Inside Moebius, mais avec ses moyens à lui. C'est-à-dire qu'il a fait une histoire de l'art totalement, totalement personnelle et subjective, où il visite le musée avec un copain critique qui lui dit « Le critique, c'est la passion, l'historien, c'est les fêtes. » Et il se retrouve très vite à la sortie de Beaubourg avec un dessin minimal que Moebius a mis des années à désapprendre à dessiner. Lui, comme il a un dessin minimal, il apprend plus vite, il dédessine mieux. Et on se retrouve autour d'un feu de camp avec Dupuis et ses copains. Et autour du feu de camp, il y a un mec qui s'appelle Leonardo, c'est de Vinci bien sûr, qui est pressé, qui doit repartir. Il y a Picasso qui passe, il y a un noir qui dit à Dupuis « T'en fais pas, tu y arriveras ». Et il y a, on voit passer Hartung, on voit passer tous les artistes, et ce qui est drôle, c'est que c'est des propos réels où généralement ils se moquent les uns des autres. Picasso dit « Ouais, je déteste les artistes qui ressemblent à de la musique, je déteste les artistes en gros ». Et derrière lui, il y a un autre artiste qui dit « Ouais, ça c'est bien Picasso, il déteste tout le monde sauf lui ». En fait, c'est subjectif et donc ce sont des artistes qui presque tous disent qu'ils n'y arrivent pas ou qu'ils bricolent comme César ou Armand. Et Dupuis est au milieu, il leur pose des questions. Alors à la fin, il parle avec Matisse qui lui dit « T'en fais pas mon gars, l'important c'est tu penses que l'art c'est créer, bah tu crées, bah c'est bon, ça roule ». Donc on est dans une vision complètement personnelle, des chronologiques où toute l'histoire du l'art se mélange, et dans un livre à peu près parfait, qui accessoirement est un objet parfait puisqu'il fait 22 mètres de long. Donc on commence à le déplier, moi je conseille de le lire par terre, et puis on regarde une page, et puis on avance, il faut avoir 22 mètres de long, attention, hein, faut un grand appartement, mais prenez un couloir, ou le métro même, et on le déplie, et on avance dans l'histoire. À l'époque c'était sur un chariot horizontal quand c'est passé sur la ferme du Buisson, maintenant c'est en vertical, et ce rythme de lecture est absolument ahurissant, c'est-à-dire que quand on se met à déplier, à un moment on se dit « Mais j'ai fini, j'ai lu 22 mètres !» Et on n'est pas chez John Holmes, c'est pas 22 mètres pornographiques, c'est 22 mètres artistiques, mais donc pornographiques, puisque quand il parle d'art, il parle de nos pulsions profondes, et je trouve que son histoire de l'art, l'air de rien, est une approche tellement... Il nous dit en gros qu'on a tous raison, que quand on regarde un tableau, on est comme l'artiste, il ne sait pas ce qu'il fait, et nous, c'est ce qu'on voit dans le tableau qui nous regarde, et ça ne regarde que nous. Et je trouve que c'est un livre totalement décomplexant pour ceux qui croient à cette aberration qui est l'explication des œuvres d'art. Chacun de nous a le droit de prendre la clé qu'il veut et de rentrer par la porte qu'il veut. Je trouve que c'est un livre formidable. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un livre extrêmement rigolo.
Merci Jean-Pierre. Et on termine cette dernière émission de l'année 2016 avec un autre amateur de John Holmes, Christophe Beer.
Pour sculpter la bêtise, il suffirait de mouler un censeur, affirme Delfeuille de Thon. De fait, Censuré de Henri Roth, publié chez Slatkin, est un intéressant manuel de moulage. Consacré à la censure cinématographique à Genève, instituée dès 1934 par les socialistes, il offre en effet les rares portraits photographiques des grands parangons de l'ordre et de la morale. André Erler, premier président de la commission de contrôle et chef du département de l'hygiène, bajoue d'enfants gâtés, regard malicieux derrière des lunettes rondes, l'austère et dégarni abbé Chamonin que le vaudevillesque Arlette et ses papas heurta profondément, le conservateur et viril Paul Balmer, chef du département de justice et police, dont les archives privées ne comportent que des lettres de félicitations, la féministe Emma Kammacher, bouche amère, qui souhaite interdire en 1939 la bête humaine. Tous n'auront de cesse de priver les Genevois jusqu'en 1980 des œuvres autorisées dans d'autres cantons. Les cibles se succèdent au gré des modes. Calçonnade française des années 30, films de violence sadique comme Le Masque d'or d'après Saxe-Romer, films soviétiques considérés d'inspiration révolutionnaire et communiste, Latouko, un documentaire ethnographique sur une tribu soudanaise que la commission qualifie de « prétexte à une exhibition de noirs présentée de façon intolérable ». Les censeurs grondent la curiosité malsaine du public. Ils autorisent les films de striptease italiens à la condition que tous les effeuillages soient coupés. Mais un arrêté gouvernemental précisera que les striptease doivent s'arrêter lorsque la femme est en petite culotte. Flèche d'Andy Warhol fait l'unanimité pour son homosexualité. Film indéfendable, dégoûtant, bête, long, toujours le sexe de cet homme. Non, s'épouvante la secrétaire de commission. L'adultère est inadmissible, ainsi que le sadomasochisme, déclenchant quelques jugements délirants. On ne s'étonne plus que les Allemands aient eu des camps de concentration, ose un censeur, au sujet de la Vénus en fourrure avec Laura Antonelli. Dans les années 70, saisie de nouveaux recours, consciente de l'évolution des mœurs, la justice moins sévère fragilise la commission de censure qui disparaîtra en 1980. Ce livre documenté illustre le laborieux combat de producteurs et d'exploitants mal informés, dispersés, solitaires, face au conservatisme local et l'interventionnisme des églises.
Merci Christophe Beer. Et puisque, comme on dit, ça sent l'agenda, puisque nous allons pas tarder à basculer dans une nouvelle année, je recommande très chaudement aux éditions Le Jeu de la Règle, L'Imprévisible, c'est une sorte d'agenda absurde, péréquien, étrange, publié donc par cette maison d'édition, L'Imprévisible 2017, alors qui propose pour chaque journée, eh bien une journée spéciale. Par exemple, le 5 janvier, je vous le signale, ce sera la journée des sujets à caution. Et évidemment, la journée est agrémentée de tout un tas d'événements, évidemment, triste, 97, la mort d'André Franquin. Le 5 janvier 1757, l'attentat de Damiens contre Louis XV. Et en 1307, à la suite d'une émeute à Paris contre la hausse des loyers, 28 émeutiers sont pendus. Voilà, c'est toute une série. Tous les jours de l'année sont mis sous l'invocation de détails authentiques ou absurdes, avec une journée spéciale qui est tout à fait étonnante. C'est L'Imprévisible 2017 aux éditions Le Jeu de la Règle. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce dernier mauvais genre de l'année 2016. Je rappelle les sujets traités ce soir. Du Yeti au calmar géant de Benoît Grison, c'est chez Delachaux et Nicelet. Nick Cutter, troupe 5. 1952 chez De Noël dans la collection Effroi. À la recherche de l'ultra-sexe, le film-livre de Nicolas et Bruno, c'est aux éditions Nova. Le très beau coffret Almodovar, c'est chez TF1 Vidéo. Ryuko, volume 1, c'est au Lézard Noir. Et puis bien sûr, l'histoire de l'art de Philippe Dupuis, c'est aux éditions Dupuis. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Claude Nior, Claire-Martin Duguerre, Anaïs Isbert, Céline Duchesnay, Sixtine Audebert, Élise Lépine, Philippe Rouillet, Jean-Pierre Dionnet, Fausto Fazulo, Christophe Bire et François Angelier vous remercient d'avoir suivi l'émission. On se retrouve pour la première émission de l'année 2017 la semaine prochaine. On se rend visite aux ZEREP dans l'atelier de Sophie Pérez et Xavier Boussiron. D'ici là, bonne fête. On écoute bien sûr Métronomique d'Amaury Chardot. Mais après, bah écoutez, déchaînez-vous. Livrez-vous à vos bas instincts. C'est encore ce que vous avez de mieux à faire. Bonsoir auditrice, bonsoir auditeur et bonne année.